En arrivant jusqu'ici, les rues parisiennes n'ont rien laissé paraître de la dramaturgie dont la passion est le réceptacle, en fait. Tout est sérénité, tout est insouciance, alors que les églises chrétiennes à travers le monde vivent le temps de la passion au rythme de l'arrestation, de la crucifixion, et demain, Pâques, certes. Mais le samedi saint est ce temps de l'entre-deux, et c'est cet entre-deux que nous allons vivre maintenant, dans ce temps méditatif, ce temps spirituel. Et c'est un temps accompagné par Dieu lui-même, ce Dieu que Jésus a prêché jusqu'au bout, dont il a dit l'amour jusque sur la croix. Et c'est la raison pour laquelle, pendant le temps du samedi saint aussi, il est possible de s'accueillir comme on s'accueille dans l'Église, en disant que la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père. Alors cet entre-deux, cet entre vendredi et dimanche, eh bien nous allons commencer par le chanter à travers les psaumes que vous avez donc dans votre psautier français. Et dans le psautier français, nous allons commencer par le chant du psaume 42, les strophes 1 à 3. Les psaumes constituent donc le recueil dans lequel les judéo-chrétiens trouvaient les hymnes qu'ils pouvaient chanter pour accompagner les différents temps de l'année. Et le psaume 6, qui est un psaume de repentance, est particulièrement adapté évidemment dans ce temps où une forme de culpabilité se répand parmi les disciples. Et donc au psaume 6, nous allons chanter les strophes 1 à 5. Lorsque Jésus est avec ses disciples dans le jardin de Gethsémané, il les invite à veiller et à prier. Prier parce qu'il y a cette conviction intime que Dieu est amour et qu'il entend la voix de ceux qui le prient. Et c'est précisément la conviction qui retentit dans le psaume 116. Nous chanterons le psaume 116 dans sa version genevoise, donc la version B, les strophes 1 à 3. Et après le chant de ce psaume, nous nous rassirons pour profiter de chants de l'orgue. Pour l'instant, le psaume 116, 116B, strophes 1 à 3. Changement de lieu pour Jésus et changement de recueil de chants pour nous. Nous chanterons désormais dans le recueil Louanges et prières. Nous rappelions hier de quelle manière Jésus avait été arrêté, quel fut son procès, cette mascarade judiciaire, et de quelle façon il avait été mis à mort, crucifié. C'est ce que nous allons maintenant retrouver à travers ces chants, ce choral tout d'abord, le numéro 119, « Chef couvert de blessures ». Nous chanterons les strophes 1 à 3. Et nous restons assis. Dans un tel choral, nous entendons les accents d'une théologie sacrificielle telle que les passions de Johann Sebastian Bach ont pu en être témoins. Avec le cantique suivant, le cantique 236, nous entendons dans une version romantique de quelle manière les récits des évangiles ont été compris comme les récits qui parlent aussi de notre condition de disciples. Nous-mêmes, disciples qui ne savons pas trop comment nous tenir face à la croix, pécheurs indignes et misérables qui, dans une certaine mesure, participons de la condition des disciples de l'époque de Jésus. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 4 de ce cantique 236. La croix en elle-même n'est jamais qu'un instrument de torture, mais replacée dans cette passion, elle prend une dimension universelle et devient un symbole aussi bien de l'injustice que de l'intégrisme, que de l'aveuglement religieux. Elle devient le symbole de toutes les errances de l'homme. Et ce cantique 143, dont nous allons chanter les strophes 1, 2 et 3, nous dit de quelle manière la croix peut être aussi pour nous un récit qui met en évidence tout ce qui aujourd'hui encore est synonyme de toutes ces horreurs dont nous sommes encore capables. Chantons les strophes 1, 2 et 3. au chapitre 15 de l'Évangile selon Marc, les derniers versets, à partir du verset 42, nous racontent les derniers instants de Jésus. Le soir était déjà là, et comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du Shabbat, Joseph d'Arimathée, membre distingué du conseil, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu, arriva. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Étonné qu'il soit déjà mort, Pilate fit appeler le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il donna le corps à Joseph. Celui-ci acheta un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enroula dans le linceul et le déposa dans une sépulture taillée dans le roc, puis il roula la pierre à l'entrée du tombeau. Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques, regardaient où on le mettait. C'est ainsi que s'achève le récit du Vendredi Saint. Et à vrai dire, l'Évangile ne nous dit rien sur ce qui suit, immédiatement. Le samedi de la semaine dite sainte ne fait pas le pont entre le vendredi de toutes les horreurs et le dimanche de toutes les grâces. Ce samedi est plutôt une sorte de tunnel, un tunnel dans lequel l'âme s'enfuit au plus profond de l'histoire. Oui, c'est l'histoire d'un enfouissement dont nous ne savons rien en vérité. Ce samedi est une sorte de tunnel dans lequel est cachée toute forme de vérité. Et les récits des évangiles, quoiqu'ils ne soient pas des récits historiques, ne nous disent absolument rien de ce qui fut en fait une sorte de Shabbat radical, sans la moindre action, sans la moindre parole. Un Shabbat radical. Cela signifie qu'évidemment, il y a quelque chose de paradoxal à ce que je me tienne là, à ce que je vous dise quelques mots, car le silence devrait être la manière la plus fidèle pour honorer ce moment-là. C'est ainsi certainement que les disciples ont vécu ce jour d'une terrible incertitude, ne sachant rien de ce qui allait advenir. Nous avons une sorte d'avance sur eux, nous savons déjà quelle sera la teneur du jour qui suit, mais pour eux c'était un jour vide, vide de tout, et d'abord vide de leur maître, Jésus, dont l'absence, paradoxalement, a rempli la totalité de leur journée. Ce silence, ce vide, est évidemment on ne peut plus compréhensible. Comment ne pas être sidéré lorsqu'un homme innocent est exécuté ? Exécuté pour un crime qu'il n'a pas commis, donc. On ne peut être qu'à sec, à vrai dire, de toute parole et même de toute réaction, lorsque l'innocence est mise à mort. Et que cette mise à mort de surcroît est mise en scène. Comment ne pas être effondré lorsque l'actualité elle-même nous mène à l'horreur, nous mène au dégoût. Je pense aux amis du personnage biblique Job, comme ils ont été bien inspirés dans un premier temps de se taire, lorsqu'ils ont rejoint Job dans son malheur. Dans ce moment où tout est vide, à commencer par le ciel, d'où aucune voix ne retentit, pas même un murmure, pas un seul mot. Le monde semble s'être endormi dans les évangiles. Et peut-être sommes-nous en droit, avec Johann Sebastian Bach dans l'une de ses passions, de se demander si les astres eux-mêmes ne se sont pas endormis, s'ils n'ont pas cessé leur course, comme dans le livre de Josué où nous raconte que le soleil s'arrête. Le temps semble soudainement long. Peut-être le temps s'est-il même arrêté. Y aura-t-il un nouveau jour ? Ce jour est d'abord l'expérience du vide. Le vide de Dieu. On appelle cela la déréliction. La déréliction absolue, radicale. Le vide de vie. Le plein de douleur. Et cela impose le silence. Je disais qu'en ce samedi saint, l'âme est enfouie au plus profond de l'histoire. Voilà ce que nous apprend la mise au tombeau de Jésus par Joseph d'Arimathée. Le texte grec dit que Jésus est mis dans un néméion, qui est certes une sépulture, mais qui est avant tout un mémorial. Néméion en grec renvoie à la mémoire. Nous le savons à travers le fameux procédé mnémotechnique, le procédé pour faire mémoire. Eh bien, nous pouvons dire que Jésus est déposé par Joseph dans une mémoire, après qu'il l'a roulé dans un linceul, comme on roule les mots de la Torah écrite, qui sont à l'époque dans des rouleaux. Et ce Shabbat, du coup, devient le temps du face-à-face avec la mémoire, ce lieu qui contient désormais le Rabbi Jésus, un lieu que les disciples imaginent définitivement fermé, clos. Les disciples pensent qu'il n'y aura rien à ajouter à l'histoire de Jésus, qu'ils en ont fait le tour, que tout a été montré, qu'il n'y a plus rien à espérer. Si l'on regarde les évangiles de près, nous constatons que l'attitude des disciples indique que leur travail de deuil est bien avancé. Après le choc de l'annonce de sa mort, après le déni exprimé par Pierre, après la culpabilité de Judas, après le marchandage tenté par Ponce Pilate, après la colère de Dieu traduite par le voile du temple qui se déchire, vient le temps de l'acceptation. Les disciples acceptent que Jésus est mort et bien mort. Il est désormais tout entier dans une mémoire définitivement scellée. Il n'y aura pas de retour en arrière. Mais l'acceptation n'est pas la dernière étape de la traversée de la vallée où règne l'ombre de la mort. Il y a encore une étape, encore un peu de marche à accomplir pour la reconstruction. Il faudra qu'une parole retentisse dans ce désert de mots, dans ce silence évangélique du samedi saint. Il faudra qu'une parole, au moins une parole, vienne mettre un peu d'ordre dans ce chaos primordial, dans ce tohu-bohu. Il faudra qu'une parole vienne donner à nouveau un peu de sens, un début de raison d'être à ceux qui sont là, perdus dans leurs pensées, perdus dans leurs souvenirs, encombrés d'une mémoire dont ils ne savent pas encore que faire. Le samedi saint, s'il est un jour vide, un jour de silence, un Shabbat radical, c'est parce qu'il est le temps nécessaire à la traversée du désordre, la traversée de la vallée de l'ombre de la mort, la traversée du désert, cet instant qui préfigure l'entrée en terre promise, l'arrivée d'une nouvelle aube, la sortie du chaos, le réveil de la vie, ce que dans un instant, nous appellerons résurrection. Amen.
Thank you. Donc maintenant, trois cantiques, trois chorales, en fait, sur Pâques, avec le premier, donc le cantique 149 dans le petit recueil Louange et prière, « Mon Rédempteur est vivant ». Reprenons en fait à la fin du psautier français le choral 24, Christ ressuscité des morts. Alors c'est un très beau choral en fait dont nous connaissons bien l'air avec, puisque nous entendrons deux pièces d'orgue que va nous jouer Jean-Dominique Pasquet tout à l'heure. Donc Christ gisait dans les liens de la mort, il est ressuscité. C'est un par un cousin de Bach et puis un par Jean-Sébastien Bach. Donc c'est un très beau thème de chorale qui... Voilà, nous permet de nous ouvrir à cette résurrection du Christ. Le choral 24.
Thank you.
maintenant donc le cantique 144 dans le petit recueil Louange et prière, Jésus sort de la tombe. Alors ça, c'est un grand mystère aussi, parce qu'en fait, il n'y a aucun évangile qui nous montre Jésus en train de sortir de la tombe, ou comme on l'a chanté tout à l'heure, voilà, Jésus, dans un suprême effort, a vaincu la mort. Ça, c'est quand même assez surréaliste, et c'est vrai que, bon, vous voyez, dans ces cantiques, alors, des fois, les paroles ne correspondent pas tout à fait à notre théologie, mais bon, on les prend avec bienveillance, finalement, en nous ouvrant à ce témoignage. Souvent, ceux qui ont le plus vieilli dans les paroles, c'est ces cantiques du 19e siècle, bizarrement, plus encore que les psaumes. Mais donc, on le prend avec bienveillance en disant, ben voilà, ils pensaient ça au 19e siècle, ben nous, si on pense différemment, c'est pas un problème. On est dans cette optique, finalement, de se poser des questions. Donc, on peut chanter ces cantiques en se posant des questions et en s'ouvrant donc à... aux images peut-être aussi qui nous sont proposées pour notre méditation. Donc voilà ce Jésus que l'on voit sortir de la tombe. Prions Dieu. Ô Dieu, Père de Jésus-Christ et notre Père à tous, merci pour ton amour puissant qui se manifeste autant dans la faiblesse de Jésus-Christ que dans la force de son témoignage en parole et en acte. Par Jésus-Christ, nous connaissons ton nom, ton visage, et en nous monte une foi nouvelle, une espérance et un amour qui viennent de toi. C'est ainsi que quiconque invoquera ton nom, Seigneur, sera sauvé, ressuscité, mis debout. Tu nous envoies dans le monde comme Christ a été envoyé, car comment donc invoquerait-il ton nom s'ils ne t'ont pas connu? Comment est-ce qu'ils pourraient t'invoquer s'ils n'ont pas eu foi en toi? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Et comment... en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui en témoigne? Et comment y aura-t-il des personnes pour en témoigner s'ils n'ont pas été envoyés dans le monde? Eh bien, toi, Père, tu nous envoies annoncer la paix et de bien bonnes nouvelles pour chacune et pour chacun. Augmente la foi et la fidélité de chacune de tes églises, mais aussi celle de notre paroisse de l'Oratoire et de chacune et chacun, qu'il soit un habitué ou un visiteur, afin que nous puissions grandir ensemble dans la foi et puis ensuite rendre fidèlement, ici, là, un témoignage de ta puissance, de résurrection et de vie pour chacune, pour chacun. Remets sur pied ceux qui sont accablés par le deuil, ceux qui sont en souci pour leur santé, pour leur avenir ou pour leurs proches. Donne ta force à ceux qui voient leur force décliner. Oui, Dieu vivant, tu nous as ouvert les portes de la vie éternelle, et bien que dans ces fêtes de Pâques, nous puissions célébrer cette vie qui vient de toi et en vivre sereinement, joyeusement, avec enthousiasme. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'adressons cette prière qu'il nous a confiée pour que nous soyons ainsi les fils et les filles du même Père que nous avons dans les cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Je vois qu'il y a une petite offrande qui est marquée sur la feuille. Donc, merci à Stéphane. Donc, grand merci à Jean-Dominique Pasquet de nous avoir accompagnés donc avec ces magnifiques pièces d'orgue. Et puis, merci à vous, voilà, qu'on puisse ensemble avoir ce temps de méditation par le chant, aussi par la lecture de l'Évangile, ce temps de pause pour nous ouvrir à vraiment quelque chose d'essentiel dans l'Évangile du Christ. Eh bien, recevez cette bénédiction, recevons ensemble cette bénédiction que l'Éternel nous adresse en particulier. Oui, que l'Éternel bénisse chacune et chacun d'entre vous et vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur nous et nous accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers chacune et chacun d'entre nous et nous donne sa paix. Et ensemble, nous pouvons chanter donc ce cantique 150, à toi la gloire, pour nous ouvrir à cette victoire de la résurrection.